Le Seigneur vous bénisse. Ce matin, Jean-Luc a commencé par des versets du psaume 73. Et je voulais justement commencer par le psaume 73. Alors si vous voulez, on va le prendre. On ne va pas tout lire, mais la première partie... Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leurs bouches jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se détourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. » Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Voilà, je voudrais ce matin avoir une réflexion avec vous sur le sujet suivant. Quel est donc le Dieu que nous servons ? Quel est ce Dieu que nous servons ? Parce que vous avez dû vous en rendre compte dans vos parcours, et j'aimais bien ce que Josette disait tout à l'heure, que nous avions chacun des chemins un petit peu zigzagants avec toutes sortes de choses qui se passent dans nos vies et pas toujours réjouissantes, et que finalement, par moments, le Seigneur permet dans nos vies des choses incompréhensibles. Incompréhensible. Et c'est sur ce sujet-là que je voudrais vous avoir une réflexion avec vous ce matin. Par exemple, ici, j'ai lu une histoire d'une petite fille qui a 9 ans. Une voiture s'est arrêtée, elle a été tirée dans la voiture, elle a été violée, et puis on l'a rejetée sur le trottoir. Et à 50 ans, elle était devenue chrétienne. Et pendant toutes ces années, et jusqu'à son âge de 50 ans, elle se demandait comment Dieu avait pu permettre une chose pareille, et elle faisait semblant d'être heureuse. Alors c'est une déception, évidemment, quand il se produit des choses comme ça. Il y a des textes, vous savez, qui sont forts. Moi, j'ai lu quelques textes écrits par des hommes de Dieu. Il y en a un qui dit... On peut toujours croire au Dieu qui a permis Auschwitz, la Shoah. On peut toujours croire à ce Dieu, à ce qui s'est passé parce qu'il l'a permis. Mais peut-on encore lui parler ? Alors, voilà, il y a des choses qui sont difficiles, qui sont assez incompréhensibles. Et nous sommes des humains. Alors, moi je suis pas psychologue, vous savez, mais on sait quand même comment on réagit. Et à un moment donné, quand il y a des choses comme ça qui se produisent, que l'on ne comprend pas, il y a comme une colère qui monte. Pourquoi une colère ? Eh bien parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit que nous serons bénis, etc., etc. Et on a comme toutes les promesses de Dieu, et à un moment donné, quelque chose nous dépasse trop fort. Et à ce moment-là, on dit « Mais tu es responsable de ma souffrance. Tu n'as pas tenu tes promesses. » C'est comme s'il y avait une sorte de trahison. Parce que vous savez, quand on est devenu l'ami de Dieu, Quand on a un ami ou une amie, l'amitié, ça implique la loyauté. Et quand on a les promesses de Dieu, on estime qu'il doit les tenir. Et quand il se produit des événements comme ça, il y a une colère qui monte. Et cette colère, elle prend la racine dans ce sentiment d'injustice. On veut justice. Comme si Dieu avait rompu le contrat. Alors c'est d'autant plus difficile que nous le servons avec joie. Souvent nous le servons avec joie, et puis quand il arrive des choses comme ça, on ne comprend pas. Par exemple, si je prends dans le livre de Jérémie, au chapitre 15, versets 17 et 18, Jérémie qui dit « Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse ?» Vous voyez Jérémie qui se pose une question là en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu ?» Et j'ai encore ici une histoire que j'ai lue, une histoire vraie, hein, d'une femme qui s'appelle Jeanne, qui avait consacré toute sa vie au service de Dieu, qui avait sacrifié beaucoup de temps, d'énergie, de dons, d'argent, toutes sortes de choses. Et pourquoi, à ce moment-là, sa petite fille a-t-elle été victime d'abus sexuels? Pourquoi sa famille n'a-t-elle pas été protégée? On ne comprend pas. Alors ça, c'est ce sentiment de trahison, quelque chose qui ne va pas. Et voyez ensuite, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on se sent seul. Si Dieu n'a pas l'intention de nous traiter correctement, pourquoi est-ce qu'on doit faire avec lui? Et ça, c'est des questions humaines, profondément humaines, quand ça se produit. Et certains s'arrêtent là. Beaucoup d'ailleurs s'arrêtent là. Ils choisissent de se détourner de Dieu, mais alors ils sont dans la solitude, parce que plus personne n'a prié. Plus personne. Et peut-être à ce moment-là, c'est la dépression, plus d'intimité, plus personne. Si vous prenez un passage, et un passage que j'aime bien, qui est dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, c'est l'histoire d'Élie. Vous vous rappelez de l'histoire d'Élie? Élie, il a sacrifié, il a tué tous les prophètes de Baal. Et vous avez à ce moment-là quelque chose qui se produit, c'est qu'il pensait avoir la victoire. Et voilà Jézabel qui le menace et qui dit « Tu vas mourir. Je vais tout faire pour te faire mourir. » Et regardez ces deux versets. 1 Rois 19, versets 3 et 4. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Et le verset suivant. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. En deux versets, le premier, il se sauve pour sauver sa vie, et le lendemain, il demande la mort. Il est bouleversé. Il ne comprend plus Dieu. Quel est ce Dieu que nous servons? Vous voyez, un homme comme Élie, du jour au lendemain, il sauve sa vie et il veut mourir. Vous savez, nous sommes des humains et ces choses peuvent nous arriver. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a dit, on guérit toujours par la parole d'un autre. Si possible, la parole de Dieu. Hein? Mais qui est donnée par quelqu'un. Et quand on réfléchit à la guérison, c'est pas facile. C'est pas facile. Souvent, on veut guérir, vous savez, pour revenir au point de départ. comme si c'était juste avant qu'on soit mal. C'est pas forcément une guérison physique, ça peut être une guérison morale, ça peut être toutes sortes de choses. Mais souvent, on veut guérir pour revenir comme juste avant. Et ça, c'est pas l'idée de Dieu. Parce que Dieu, vous savez comme moi, il a compté nos cheveux. Ça, c'est fort. Moi, j'admire ça. Il a compté nos cheveux. Comme on en perd tous les jours, il doit refaire ses comptes tous les jours. Il y en a moins, c'est vrai. Mais il en repousse aussi. Hein? Alors, guérir, c'est pas se retrouver dans l'état dans lequel on était juste avant d'être mal. Juste avant d'être mal, on était bien. Hein? Mais Dieu a permis quelque chose. Et c'est pas pour rien qu'il le permet. Et quand il va falloir en sortir. Il va falloir en sortir de cette blessure, de ce qui est arrivé. Et à chaque fois, il faut quelque chose qui vient. Et vous savez, quand Jésus a rencontré cet homme qui était là sur son lit depuis 38 ans, devant la piscine de Bethesda, il y avait la piscine, et de temps en temps, un ange remuait l'eau, et le premier qui se jetait dedans, il était guéri, mais lui était paralysé. Il n'en sortait pas. Et qu'est-ce qu'il a demandé, Jésus ? Est-ce que tu veux être guéri. Il n'y a pas demandé est-ce que tu as envie d'être guéri. Est-ce que tu veux être guéri. Et c'est à ce moment-là que s'est passé quelque chose. Et vous voyez, Élie, par exemple, après cette histoire où il a voulu mourir, il était mal, hein, Élie. Il était vraiment très mal, hein, dans le désert. Hein. Élie, qu'est-ce qui se passe? Il se met sous un genêt. Et puis il s'endort. Il veut mourir. Et Dieu commence à s'occuper de lui. Il y a un ange qui prépare un gâteau pendant qu'il dort. Et puis, il va marcher, après, il va se remettre en route. Il va marcher pendant 40 jours sans manger et sans être guéri. Il n'était pas guéri, il souffrait. À quoi il pensait pendant ce temps-là? Il se sauvait, il en avait marre. Il se sauvait comme Jonas. Il n'en pouvait plus. Et alors, à ce moment-là, il va se mettre dans une grotte au bout de 40 jours. Et Élie, c'était ce prophète qui... c'était le prophète des grandes manifestations, quand même. Hein, et il priait, il ne pleuvait plus. Il priait, le feu tombait. Il y avait des jugements qui tombaient, comme ça. C'était quelque chose, ce prophète. Hein. Et Élie, il avait connaissance de Dieu comme ça. C'était son Dieu comme ça. Il avait cette foi, moi je ne l'ai pas, hein, faire tomber la foudre comme ça. Et Dieu va passer, vous connaissez les textes, il va passer sous la forme du vent, d'un tremblement, du feu, c'est-à-dire tout ce dont Élie a l'habitude. Et il ne reconnaît pas Dieu dedans. Et puis après, il y a Dieu qui passe dans un fin bruit, un son très doux, quelque chose qui n'a pas l'habitude. Pourtant, Élie savait rester dans le silence. Hein. Mais ça, il n'y avait pas l'habitude. C'est-à-dire que Dieu va se présenter à lui d'une autre façon. Et il va lui poser une question, hein. Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Oh, ben je t'ai servi de telle et telle façon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Deux fois, il va lui demander. Deux fois, ça veut dire que Dieu laisse du temps pour réfléchir. Mais écoute, Élie, qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Il m'est tombé une catastrophe sur la tête. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu fais là? Et ça, vous savez, c'est Dieu qui a besoin de se présenter autrement. Pourquoi? Parce qu'on a mis Dieu dans un cadre, dans une façon de le voir. Et ça, c'est très profond, c'est très imprimé. Vous savez, on a tous... eu une enfance où on nous a dit un tas de choses. Moi, on me disait quand j'étais petit, si c'était pas ça, petit Jésus, il va te punir. Hein? Vous savez que ça rentre, ça, hein? À force. Ça rentre, hein? Vous savez quand est-ce que ça ressort, ça? Quand il nous arrive des problèmes. Parce que c'est enterré dans le cerveau. Alors Dieu ne va pas faire une guérison miraculeuse en Élie, non. Il va lui donner une parole qui réconforte. Et Dieu se présente autrement qu'on ne l'attend. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut quelquefois des mois, des années pour changer sa façon de voir Dieu, de comprendre Dieu. C'est pour ça que quel est le Dieu que nous servons ? Par exemple, si je prends l'histoire d'un couple, qui se dispute parce que l'épouse n'est pas contente parce que son mari ne sort pas les poubelles. Et ça se dispute, et ça se dispute. Et ça peut aller loin, vous savez, pour une histoire comme ça. En fait, le problème, ça vient du fait que le père de madame sortait les poubelles et la mère de monsieur aussi. Donc chacun pensait que c'était à l'autre à le faire. Ça c'est... Ben oui. Et il fallait recadrer cette affaire. Il fallait y repenser, le voir autrement, réfléchir pour soi. Et à ce moment-là, on arrive de nouveau à se reparler et à reconnecter. Parce que tant qu'on n'a pas recadré, c'est pas très bien d'ailleurs ce que je dis, on peut pas cadrer Dieu, mais tant qu'on n'a pas repris une autre vision de Dieu, on n'arrive pas à lui reparler. On est prêt à se disputer. Et ça, c'est très important à comprendre. Alors, on va réfléchir à ça, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, hein, vous le connaissez ça. Mais qu'est-ce que nous attendons, nous, de Dieu ? Qu'est-ce qu'on attend de Dieu dans nos vies ? Alors, il y a des clichés. Il y a des clichés qu'on a reçus étant petit. Moi, j'en ai reçu des clichés de Dieu. Il y a le Dieu Père Noël. Ben oui, c'est le brave Dieu, j'allais dire le bon Dieu, hein, qui donne des cadeaux. Alors, il va regarder celui qui est sage et celui qui est méchant, qui est vilain. Mais vous savez bien que le Père Noël, il est bon. Donc, même les vilains, ils auront leur cadeau. Bon, ça, c'est un cliché, vous savez. Et quand arrive une catastrophe dans nos vies, un problème, quelque chose qu'on ne comprend pas, on dit, mais pourquoi il ne se comporte pas comme ça ? Dieu est amour, non ? Alors, pourquoi il ne me donne pas ce que je lui demande ? Dieu n'est pas le Père Noël. Alors c'est peut-être un grand-père. Dieu grand-père. Hein, un bon grand-père. Un petit peu sénile. Ben oui, parce que... Allez, il aime voir tout le monde. Il aime tout le monde. On joue dans la cour de récréation, tout le monde est content. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Hein ? Et puis à la fin de la récréation, allez, tout le monde sera sauvé. Bah oui, on va pas être méchant. Ma mère m'a appris ça. Dieu est bon. Dieu est bon. Par conséquent, Dieu sauvera tout le monde. Alors pourquoi il nous envoie tant de problèmes, tant de difficultés ? Parce que Dieu maîtrise tout, non ? Alors pourquoi tout ça ? Ça colle pas. Dieu grand-père, ça colle pas. Un père corrige. Et il y a Carl Lewis qui a écrit ce petit texte que je vais vous lire. « J'aimerais sans doute beaucoup vivre dans un univers gouverné de cette façon par un Dieu grand-père. Mais puisqu'il est tout à fait clair que ça n'est pas le cas, et puisque j'ai des raisons de croire néanmoins que Dieu est amour, j'en conclus que ma conception de l'amour de Dieu doit être corrigée. » Alors après, il y a le Dieu policier de la route. Dieu policier de la route, c'est quoi? C'est celui qui aime la justice. Allez, par exemple, je roule tranquillement sur une route 90 à l'heure. Et moi, bon, il n'y a personne, c'est tout droit, je roule à 100. Oh. Il n'y a pas de mal, hein, il n'y a pas de radar. Tout d'un coup, il y en a un qui me dépasse à 160 à l'heure. Oh, s'il pouvait y avoir des gendarmes pour l'arrêter, celui-là. Bien sûr qu'il est en faute, mais moi aussi. Je dépassais, hein. C'est ça le Dieu gendarme. Seigneur, quand est-ce que tu vas rendre justice? Quand est-ce que tu vas faire tomber celui-ci qui fout le bazar tout partout? Je vais vous dire une chose. Dieu n'a jamais dit que les malfaiteurs, les malfaisants, seraient frappés sur le champ. Au contraire, il nous a dit de laisser pousser l'ivraie avec le blé. Ça, c'est pas évident. Parce que l'ivraie, ça pousse et ça prend de la place. Et ça empêche les autres de grandir. Alors, je vais vous dire deux questions. C'est pas moi qui les ai inventées, mais ça fait réfléchir. Si Dieu frappait à tour de bras, comment serait-il aimé? Première question. Et deuxième question. Si Dieu récompensait à tour de bras, pourquoi serait-il aimé? Vous savez, comme moi, hein, que les enfants gâtés, ils n'aiment pas leurs parents. Hein. On le voit maintenant. Hein. Alors après, il y a encore un autre Dieu. C'est le Dieu bon génie. Ah oui, ça existe aussi. C'est même beaucoup plus fréquent qu'on imagine. C'est ce Dieu qui répondrait à mes prières si je fais quelques trucs qui lui fait plaisir. Par exemple, c'est très fréquent ça. Je vais jeûner pour avoir ce que je veux. Je vais faire plier Dieu par le jeûne. C'est plus fréquent qu'on imagine. On jeûne, mais c'est Dieu qui répond. Il répond comme il veut. Et ça me fout en colère. Alors on peut faire d'autres choses, hein. On peut faire des serments, on peut faire des actes d'amour, on peut faire des tas de choses, hein. Faut regarder nos motivations, vous savez. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ci? Est-ce qu'au fond, c'est pas pour faire plier Dieu pour qu'il réponde à ma demande? Les motivations. Par exemple, l'histoire ici d'un petit garçon qui se rend dans une confiserie pour avoir des bonbons, hein. Et il a une pièce de 10 cents dans sa main pour avoir une barre de chocolat. Mais ça coûte 1 €. Alors la dame qui est gentille et qui le voit, elle dit, bon, allez, tiens, le v'là, pour 10 cents. Formidable, hein? Alors lui, il a compris le truc, hein? Et le lendemain, il vient avec toute une poignée de 10 cents. Il dit, donnez-moi 12. Et là, ça ne marche plus. Il a essayé de manipuler. Voyez? Non, Dieu n'est pas manipulable. Et il fait ce qu'il veut. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Alors, à partir de là, je voudrais aborder d'autres choses. Par exemple, si vous prenez l'histoire de Job. L'histoire de Job, c'est difficile à comprendre, hein, l'histoire de Job. Mais les trois amis de Job là, qui étaient autour de lui, ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. Pourquoi ? Parce que Job, il était attaqué par le malin, avec l'autorisation de Dieu, vous le savez bien, détruit, littéralement. Et ça, ça ne cadrait pas avec l'opinion que ses amis pouvaient avoir de Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il trouve une raison à ce malheur. Et je vais vous lire ici un petit texte qui a été donné par Warren, qui dit « Son expérience à Job remettait en question la validité de leur théologie bien ficelée. Ils ne s'intéressaient pas vraiment à Job comme un être plongé dans la souffrance. Job représentait avant tout pour eux un problème dont ils devaient se débarrasser et non pas une personne qu'il fallait encourager. » Il fallait s'en débarrasser de Job. Et pour s'en débarrasser, quand on a quelqu'un qui est plongé comme ça dans le malheur, c'est qu'il a sûrement péché. Donc c'est de sa faute. Voilà. Ouf, c'est rentré dans le cadre. Il y a quelqu'un qui a écrit ce petit texte que je vais vous lire. Parfois, nous nous trouvons, chacun, isolés des autres. Parce que Dieu œuvre dans notre vie d'une façon différente, d'une façon inhabituelle et peut-être anticonformiste. Si différente, si anticonformiste qu'ils ne peuvent la considérer que comme un jugement ou comme une punition. À l'instar des amis de Job, ils doivent nier l'intégrité de la victime afin de défendre leur vision. Vous vous rendez compte? Tout ça parce qu'on n'a pas compris comment Dieu fait. Et la plus grande des solitudes n'est pas provoquée par l'isolement de la famille, des amis ou de la société, mais par le soupçon d'avoir été abandonné de Dieu. Ça, c'est terrible. Moi, je sais qu'il y a quelques années, le Seigneur m'avait demandé de partir d'une église pour aller ailleurs. Et je suis parti sans donner de détails. Et on est revenu quelques années après à l'occasion de la présentation d'un de nos petits-fils. Et quelqu'un a donné une prophétie, qui était une fausse prophétie. Et qui disait... Il y a ici un homme âgé, il n'avait pas 36, vous savez, qui doit revenir au Seigneur. Qu'est-ce qu'on avait fait croire sur moi? Vous voyez? Heureusement qu'on a vite compris que c'était faux, mais quand même, comment les chrétiens jugent? Vous voyez? Alors, je voudrais vous encourager, parce que j'ai encore un peu de temps. Et vous dire, frères et sœurs, que nous traversons tous, à un moment donné de notre vie, des nuits. Il y a des moments où nous traversons la nuit, où il fait noir dans nos vies. Et Dieu travaille la nuit. Dieu travaille la nuit. Alors la nuit, je vois rien, je comprends rien. Si je me déplace, je me tape dans les murs. Mais Dieu travaille la nuit. Et je voudrais vous prendre quelques exemples. Le premier exemple, c'est dans le livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, au chapitre 15. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel? Samuel, il avait oint quelque temps avant le roi Saül. C'est Dieu qui a choisi Saül, hein? C'est lui qui a choisi Saül, hein? Personne d'autre, hein? C'est lui qui sera le roi d'Israël. Il est loin d'huile. Et puis sa royauté commence. On connaît l'histoire de la royauté de Saül. Mais très peu de temps après, Saül, on sait qu'il désobéit. Ok, il fait pas son boulot. Mais je vous rappelle que Samuel avait déposé sa fonction de juge. Justement parce qu'il n'y avait plus besoin de juge. Il y avait un roi. Donc il a beaucoup changé sa propre vie, Samuel. Il s'est vraiment donné. Et puis, à un moment donné, donc au chapitre 15, on peut lire, « Dieu qui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. » Enfin, Seigneur, tu viens de le faire il n'y a pas longtemps. C'est toi qui l'as choisi, tu ne savais pas. Comment tu fais ? Car il se détourne de moi, il n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Il cria à l'Éternel toute la nuit. Seigneur, je comprends rien, je sais pas comment tu fais. Tu l'as mis en place, c'est toi qui l'as désigné, etc., etc. Ça fait quand même pas longtemps, et tout de suite tu changes d'avis. Je comprends rien, Seigneur. Voilà. Il a fallu une nuit à Samuel pour se soumettre à la décision de Dieu. Dieu a travaillé pendant une nuit. On pourrait parler aussi de Daniel qui a prié, il a fallu 21 jours, puis qu'il y ait une réponse. Pendant 21 jours, pas de réponse. On pourrait parler aussi de Moïse. Hein? Dieu lui a dit, allez, tu sors mon peuple d'Égypte et puis tu l'emmènes en terre promise. Il traverse le désert et là le peuple il fait n'importe quoi. Et à un moment donné, Dieu dit, va, je vais détruire ce peuple. Quoi ? Tu vas détruire ce peuple ? C'est toi qui l'as fait sortir ? Tu m'as mis à la tête de ce peuple pour le faire sortir et maintenant parce qu'il murmure, toi tu veux le détruire ? Ah non, je veux pas voir ça, fais-moi mourir. Fais-moi mourir d'abord. Et voilà, Moïse, il comprend rien. Moi, je veux pas voir ça. Alors, un beau passage ici, Exode 14. On va le prendre. Exode 14. Verset 11 à 29, je vais le lire. Hein. C'est au moment où ils ont quitté la terre d'Égypte et puis ils arrivent devant la mer. Je vous ferai remarquer qu'ils ont obéi à Dieu. Ils suivent la voie de Dieu, comme on essaye nous tous, chacun de faire. Ils dirent à Moïse, parce qu'ils se trouvent, ça y est, devant la mer, et puis derrière, ils ont les ennemis. Ils sont coincés. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert, que nous as-tu fait sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous voyez, déjà là, ils sont en train de renier Dieu, ce peuple, parce qu'ils n'ont pas de mémoire. Ils ne se rappellent même pas les 10 plaies d'Égypte. Tout ce que Dieu a fait pour les faire sortir, hein, ils n'ont pas de mémoire. La mémoire, c'est quelque chose. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. » Alors, comment elle arrive, cette délivrance ? Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Dieu travaille la nuit. On comprend rien, Seigneur, comment que tu fais. Mais vous savez que la mer, ça représente les peuples. que le peuple d'Israël traverse les peuples jusqu'à son arrivée, mais que nous aussi, nous traversons les peuples jusqu'à notre arrivée. Et c'est Dieu qui nous ouvre le chemin. Et il souffle la nuit. Et ça fait deux murailles d'eau qui servent de protection. Et donc, Dieu fait pendant que nous pensons qu'il ne fait rien. Si vous prenez l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, Joseph, à l'âge de 17 ans, boum, on le jette dans un puits. Vous savez, les puits, dans ce truc-là, c'est quelque chose, parce que ça fait comme ça, comme une cruche. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes au fond, il n'est pas question de remonter. Hein. Ça fait comme une cruche dans la terre. Mais énorme, hein. Ça fait plusieurs mètres de fond. D'accord ? Donc quand il est au fond, ben, il pense qu'il va mourir. Comment voulez-vous qu'au milieu du désert, on sache qu'il y a quelqu'un dans un trou ? Il n'a aucune solution. Et c'est la nuit pour lui. Et puis, vous avez les Madianites qui passent. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais les Madianites, ils trouvent au fond du trou, ils le sortent. Ça, c'est le jour. Et les Madianites vont le vendre aux Ismaélites qui l'emmènent en Égypte comme esclave. Ça, c'est la nuit. Voilà, esclave. Puis à un moment donné, il y a Potiphar qui le repère, qui l'achète, et il devient serviteur de cet officier du Pharaon. Ça, c'est le jour. Et puis, il y a la femme de Potiphar qui va le tenter, qui va arracher sa tunique et qui va l'accuser de viol. Ça, c'est la nuit. Il résiste à la tentation. En lui-même, c'est une lumière. Il est accusé de viol, jeté en prison. Ça, c'est la nuit. En prison, il va rencontrer les chansons et le panetier qui lui promettent de se souvenir de lui quand il est en prison. Ça, c'est le jour. Ça fait plaisir. Et aussitôt que ces gens-là sont libérés, ils l'oublient. Ça, c'est la nuit. Et puis, à un moment donné, il y a le pharaon qui est troublé par un rêve, et on se rappelle de Joseph, et on va le chercher. Ça, c'est le jour. Vous voyez, sans arrêt. Le jour, la nuit. Et maintenant, je vous dis, si Joseph était sorti avant la date de la prison, est-ce que tout ça serait arrivé ? Il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour tout, et Dieu a organisé nos vies. Alors, ça fait réfléchir, parce qu'on se dit, mince, il y a quelquefois la nuit des sentiments. Seigneur, moi je ne sens plus rien. Je ne t'aime plus, Seigneur. Je n'ai plus aucun sentiment pour toi. C'est la nuit des sentiments. Ou alors, la nuit de l'intelligence. Seigneur, je ne comprends plus rien. Moi, il y a quelque chose qui ne cadre pas. Vous savez, notre théologie, si elle ne résiste pas à la réalité des faits, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. On doit avoir une théologie qui résiste à la réalité des faits. Et les faits, ils sont durs. Et celui qui dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça c'est pas une bonne théologie. Il y a la nuit de la foi. Seigneur, je me demande donc si je crois encore après ça, tout ça moi. Moi, je me souviens quand on est allé en Israël, notre guide, Rafi s'appelait, c'est un Israélien, un juif, il connaissait l'évangile mais sur le bout des ongles. Il pouvait nous montrer tous les lieux, etc. Mais il dit, moi je crois pas, parce qu'un Dieu qui a permis la Shoah, j'en veux pas. La nuit de la foi. Que serait devenu Joseph si il était sorti trop vite. Si Dieu n'avait pas soufflé sur la mer, comment serait passé le peuple ? Et tous les autres qui disent, si on lit le psaume 42 par exemple. Le psaume 42, qu'est-ce qu'on peut lire ? Au verset 11. « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu ?»« Je vois pas ce que fait ton Dieu. »« Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie ?»« Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Vous savez pourquoi ? Parce que David, il avait voulu servir Dieu. Il s'était dit, je vais faire rentrer le tabernacle à Jérusalem. Et puis vous savez qu'il l'a fait un peu de travers, puisque au lieu de le faire porter par les Lévites, il l'a mis sur un chariot, et puis il s'est renversé, il y en a un qui est mort, il ne comprenait plus. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui me fait peur ? Où est ton Dieu ? Évidemment, s'il avait lu les Écritures un peu plus profondément, il aurait pu voir qu'il y avait une façon de faire. Mais n'empêche, il voulait servir de tout son cœur. Dieu aurait pu être plus gentil. Quel est ce Dieu que je sers ? Alors, il faut réfléchir à tout ça. Et la nuit est utile. La nuit est utile pour la croissance. Hein ? Par exemple, si vous prenez un tournesol, vous voyez, le tournesol, il est toujours orienté vers le soleil. Hein. Vous savez pourquoi ? Parce que la tige pousse à l'ombre. La tige, elle a besoin de l'ombre. Alors elle pousse, puis en poussant, ça tourne. Et l'autre est toujours au soleil. Eh oui ? Vous savez bien, frères et sœurs, que quand on est blessé, quand on a des blessures, c'est la nuit que ça cautérise. C'est pas vrai ? Quand on dort. Et puis, Pierre, Jésus lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Satan réclame. Et Dieu autorise la preuve. La parole de Dieu le dit. Satan réclame. Et Dieu, par moments, autorise. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on fait du pain et qu'il y a encore de la paille dans le pain, on risque de s'étouffer. Parce que quand il y a un morceau de paille qui se met dans la gorge, on peut s'étrangler et s'étouffer. Et Dieu a besoin de retirer la paille. Alors il a son vent à la main et il jette en l'air les grains. Frères et sœurs, nous sommes des grains de blé. Et quand on est jeté en l'air comme ça, par le Seigneur, je vous assure, on ne sait plus où sont notre tête et nos pieds. C'est effarant. Mais Dieu fait ça. Il a besoin de faire partir la paille pour faire du bon pain. Et tant qu'on n'a pas été brisé pour faire de la farine, parce qu'après tout le grain, il faut l'écraser pour faire de la farine, eh bien, ce qu'on va faire, ce ne sera pas de l'amour, ce sera autre chose. On a besoin d'avoir été écrasé pour aimer. Et Dieu contrôle ça. Dieu contrôle ça. C'est lui qui fait. Vous savez bien que pour bien comprendre quelqu'un qui est malade, il faut avoir soi-même été malade. Pour bien comprendre quelqu'un qui a divorcé, il faut avoir soi-même divorcé. Etc., etc., etc. Et Dieu forme son peuple à travers les épreuves. Pour comprendre une femme qui a été violée, il faut une autre femme qui a été violée. Eh oui, c'est comme ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Je ne suis pas dans sa peau. Vous comprenez? Et donc, le Seigneur va nous transformer en farine. Et il faut comprendre ça. Alors, il prend les moyens qu'il veut. Et quelquefois, c'est surprenant parce que ça arrive toujours au moment où on ne s'y attend pas. C'est comme ça. Les maladies, ça épluche, etc. Et Dieu n'agit pas toujours dans l'extraordinaire, vous savez. Mais il utilise les choses tout à fait naturelles. Hein. Quand je parlais tout à l'heure du vent, le vent, il n'y a rien de plus naturel. Hein. Et Dieu utilise les choses naturelles. Alors, il y a des petits miracles que nous pouvons faire. On peut faire des miracles avec le cœur en aimant. En aimant pour surtout ceux qui ne nous aiment pas. Alors ça, c'est dur. Ça, c'est quelque chose. Et quand le frère, tout à l'heure, priait pour celui qui l'a agressé, ben je dis, moi, chapeau. On peut faire des miracles avec l'intelligence. Comment ? Ben, en cherchant les moyens. Le Seigneur nous a donné une intelligence, c'est pour s'en servir. En cherchant les moyens de soulager, de consoler, de fabriquer des choses qui aident les gens, de voyez, mettre au service de Dieu son intelligence. Et puis, on peut aussi faire des miracles avec ses mains, en faisant le bien. Et s'il reste de la paille, Dieu peut pas faire de bon pain, mais il retirera la paille à sa façon. Et je voudrais terminer par un verset qui nous fera réfléchir peut-être, dans le psaume 4, au verset 5. « Tremblez et ne péchez pas, parlez en vos cœurs sur votre couche, et puis taisez-vous. » Que le Seigneur vous bénisse.